Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Nicolas Ignatieff, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Joël Le Guéhennec. Il ne fuit pas la guerre comme les Syriens, il ne fuit pas la misère, en tout cas pas seulement. Les Érythréens, qui par dizaines de milliers cherchent à quitter leur pays pour un autre refuge, en Afrique ou en Europe, veulent d'abord échapper à un système, à une mécanique qui fait de chacun d'entre eux un ennemi potentiel du pouvoir, donc de celui qui le dirige depuis l'indépendance du pays en 1993, Isaias Afewerki. L'Érythrée fait partie de ces régimes qu'on croyait voir abolis avec l'avènement du XXIe siècle, les régimes totalitaires, la chute du mur devait en emporter les derniers vestiges. Aujourd'hui pourtant, outre l'Érythrée, on peut ajouter à la liste la Corée du Nord ou encore le Turkménistan. Alors certes, ces pays n'ont rien de commun en termes de puissance, donc de nocivité avec ceux qui les ont précédés au siècle dernier. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons de leur existence. Ne faisant plus vraiment peur, ils ne sont que faiblement combattus. Mais on peut aussi se demander si cette forme d'exercice du pouvoir et d'asservissement des peuples n'est pas consubstantielle de notre modernité. Alors pourquoi y a-t-il encore des régimes totalitaires? C'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en discuter. Philippe Delara, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous y êtes responsable du programme Modernité et Totalitarisme. Vous avez publié en 2011 aux éditions du CERF « Naissance » au pluriel, je crois, du totalitarisme. Pour discuter avec vous ce soir, Jean-Baptiste Jean-Genevillemer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notamment philosophe, maître de conférence en relations internationales à Sciences Po, chargé de mission Affaires transversales et sécurité au Centre d'analyse de prévision et de stratégie du Quai d'Orsay. Et vous venez de publier avec Franck Gouéry au PUF, Érythrée, un naufrage totalitaire. Puis notre troisième invité, c'est Florent Gel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du bureau Afrique de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, qui intervient en particulier pour soutenir un certain nombre de militants des droits de l'homme dans des pays comme peut-être par exemple l'Érythrée. C'est en tout cas par ce pays que j'aimerais qu'on commence la discussion sur ce sujet des régimes totalitaires. Je le disais, les Érythréens fuient par dizaines de milliers leur pays. Aujourd'hui, Florent Gel, est-ce que c'est parce que le pays est devenu totalement inhabitable qu'il y a cette hémorragie aussi importante de la population?
Oui, en particulier des jeunes. Il faut comprendre que quand on commence son service militaire en Érythrée, on ne sait pas comment, quand est-ce qu'on va le terminer. L'Érythrée, c'est vraiment la Corée du Nord de l'Afrique, du travail forcé. Moi-même, je suis allé en Érythrée, j'ai habité chez des amis. La femme de ménage qui travaillait pour nous a eu des problèmes par la suite.
Vous y êtes allé à quelle époque ?
En 2004. Et c'était déjà extrêmement grave. Ça ne veut pas dire qu'il y a des journalistes qui sont en prison. On essaie d'en suivre une douzaine aujourd'hui, mais c'est extrêmement difficile. Et les gens sont empêchés de fuir. On tire à vue sur les jeunes qui tentent de fuir ce totalitarisme. On tire à vue sur ces jeunes aux frontières. Et ceux qui arrivent à quand même passer entre les mailles du filet, on les retrouve sur les routes de l'exil, jusqu'en Méditerranée et jusque Porte de la Chapelle.
Jean-Baptiste Jean-Genevillemer, Florent Gel vient nous dire l'Érythrée, c'est la Corée du Nord de l'Afrique. Est-ce que c'est un terme qui vous convient, qui convient à la situation?
Pas tout à fait en réalité. Si on entend par là que l'Érythrée est aussi, comme la Corée du Nord, un État totalitaire, oui, c'est vrai. L'Érythrée est un État totalitaire. On parlera, je pense, la définition du totalitarisme tout à l'heure. L'Érythrée viole à peu près autant de droits et libertés que la Corée du Nord. Il suffit de comparer les deux derniers rapports du Conseil des droits de l'homme les deux derniers rapports des commissions d'enquête sur ces deux pays pour s'en rendre compte. Donc il y a un certain nombre de similarités, mais il y a aussi des différences qui sont considérables, qui sont d'abord des différences d'importance stratégique. La Corée du Nord a l'arme atomique, elle fait face à l'armée américaine. Elle a trois des premières économies du monde à portée de missiles. Elle est dans une zone qui est beaucoup plus intéressante, d'où le pivot asiatique américain pour la géostratégie. La Corée du Nord est à peu près 10 fois plus peuplée que l'Érythrée. Il y a un culte de la personnalité en Corée du Nord, il n'y en a pas en Érythrée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de totalitarisme. Autrement dit, il faut bien comprendre qu'il y a des totalitarismes, qu'il y a différentes formes de totalitarisme et qu'il peut y avoir totalitarisme sans culte de la personnalité, ce qui est un peu contre-intuitif parfois.
Est-ce qu'il y a une référence qui vous conviendrait davantage, Baptiste Jean-Genevillemer, ou bien chaque totalitarisme est à ce point spécifique qu'il est difficilement comparable à un autre?
Il y a du cas par cas. La comparer au Turkménistan, c'est plus comparable pour des raisons démographiques par exemple, mais il y a un culte de la personnalité aussi au Turkménistan. Moi je pense que c'est plus proche par exemple du Cambodge, mais c'était une autre époque.
En tout cas, est-ce qu'il peut y avoir consensus, Philippe Delara, pour dire que l'Érythrée est bien aujourd'hui un régime totalitaire, même s'il faut sans doute ajouter un adjectif pour le définir de manière un petit peu plus fine?
Oui, oui, tout à fait, et c'est un cas vraiment intéressant. Moi, je dois dire que j'ai beaucoup appris en lisant le livre de Jean-Baptiste, parce qu'on s'aperçoit que le totalitarisme n'est pas un type unique et centré sur la notion de foi révolutionnaire, ce qui était au départ l'idée du totalitarisme. Le fascisme, le nazisme, le communisme, ce sont des révolutions totales en vue de créer un homme nouveau. Et avec l'Érythrée, nous avons tous les ingrédients du totalitarisme, sauf la révolution, puisque c'est, au fond, c'est un totalitarisme sans croyance, si j'ai bien compris votre livre. Il y a juste le culte de la guerre d'indépendance.
Même s'il est né quand même d'une révolution, enfin, la création de l'État il y a un peu plus de 20 ans, voilà, ça vient aussi d'une forme de révolution.
C'est une doctrine ou une foi qui est au passé. C'est la guerre d'indépendance avec l'Éthiopie. Il n'y a pas l'idée d'Érythrée nouvelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut trouver des formes de totalitarisme très paradoxales aujourd'hui, où il manque quelque chose qu'on croyait essentiel au phénomène totalitaire, comme le culte de la personnalité ou la visée d'une révolution totale, comme dans le fascisme ou le communisme. Or, en fait, on avait déjà eu un totalitarisme qui ne croit pas à grand-chose. Je dirais, c'est le totalitarisme de Brejnev, car la Russie, l'URSS finissante, était un régime totalitaire, mais sans croyance révolutionnaire. Et l'Érythrée, aujourd'hui, est aussi un cas à la fois déviant, mais incontestablement totalitaire.
Florent Gel, c'est un totalitarisme qui repose davantage sur le souvenir de sa révolution que sur la croyance en un projet politique particulier ?
Probablement, mais c'est aussi demeurer un totalitarisme, parce que c'est un pays qui est à la fois oublié, j'allais dire au départ sur lequel on n'a pas de prise. C'est même pas ça. C'est un pays sur lequel on ne veut pas avoir de prise. On n'a aucun, il y a très peu d'intérêt à avoir du prisme. Bon, il y a quelques, comme Jean-Baptiste le disait, il y a quelques missiles qui doivent probablement passer à destination de la bande de Gaza par là, où c'est utilisé pour quelques trafics. Mais aujourd'hui, c'est une zone obscure, c'est une zone noire, c'est une zone oubliée de l'Afrique et du monde.
Jean-Baptiste, Georges Villemer.
Sur le passéisme de l'Érythrée, je pense que c'est un point extrêmement important. Il faut comprendre, c'est important pour comprendre la mue totalitaire du régime. Parce que ce qui fait un des éléments du totalitarisme, c'est qu'il a, contrairement à l'autoritarisme, un projet idéologique de transformation sociale. Il veut arriver à quelque chose. Et tant qu'il est un mouvement et qu'il maintient un objectif inatteignable, utopique, il va rester totalitaire. Et pourquoi l'Érythrée est devenue un totalitarisme failli, au sens de Michael Walzer, qui dit le totalitarisme failli, c'est le tombeau des utopies, c'est parce qu'il a, pour plusieurs raisons, mais la première, c'est que l'Érythrée, le mouvement totalitaire a atteint son objectif. Son objectif ultime, c'était l'indépendance. Ça, c'était gagné en 91, puis 93 par le référendum. À partir de ce moment-là, dans les années 90, il y a eu une crise existentielle du régime, étant donné qu'il n'y avait plus cet objectif ultime à atteindre. L'objectif était déjà atteint. Et donc, si on voulait maintenir le pouvoir pour le pouvoir et non pas en vue de quelque chose d'autre, il fallait choisir soit de fondre le mouvement dans la société, soit de faire l'inverse, c'est-à-dire de fondre la société dans le mouvement et donc d'avoir une mue totalitaire. Et c'est ce qui s'est fait en se trouvant sans cesse de nouveaux ennemis et puis en revenant à l'ennemi éthiopien avec la guerre de 98-2000. Et c'est après 2000, avec la grande purge de 2001, qui a fait suite à une sorte de printemps d'Asmara, printemps érythréen en 2000-2001, que Isaias a véritablement complété la mue totalitaire. Et c'est depuis le début des années 2000 que l'Érythrée est devenue véritablement totalitaire.
Et pour, juste pour illustrer ça, le totalitarisme s'est en fait renversé sur cet objectif révolutionnaire contre ses propres populations, de sorte qu'aujourd'hui, on a en Érythrée des choses qui sont à la fois les grands objectifs de transformation sociale. Par exemple, vous avez pas de, les sacs plastiques sont interdits en Érythrée, comme au Rwanda, vous allez me dire. Mais ça a été instauré déjà depuis le début des années 2000.
Et pour des raisons quoi, des raisons écologiques,
Mais c'est aussi des raisons d'éducation des masses, c'est aussi de contrôle social qui existe dans tous les domaines. Le contrôle social qui est un des grands éléments stigmatisants de caractérisant des totalitarismes, à tel point, par exemple, que j'ai un ami qui s'est fait rouer de coups par la police parce qu'ils n'avaient pas de lumière à son vélo, en pleine nuit. Voilà, c'est vraiment c'est des anecdotes, mais qui font comprendre ce que c'est que la vie quotidienne aujourd'hui en Érythrée, qui passe par un contrôle des masses, un contrôle des populations, un contrôle de tous les aspects de la vie sociale, qui est quand même assez proche des régimes totalitaires communistes tels qu'on les connaissait, tels qu'on se les représente un petit peu, c'est-à-dire où on contrôle tout, où la vie a quand même un peu moins de saveur, et où les oiseaux volent en silence, quoi.
Philippe Delara, le projet social visant à avoir des citoyens qui finalement représentent individu par individu le régime, le contrôle des masses par la terreur, est-ce que ce sont des éléments constitutifs de tous les totalitarismes, ceux du passé comme ceux d'aujourd'hui?
Oui, absolument. Et ce qu'on découvre au XXIe siècle, c'est qu'il y a un renouvellement du répertoire des méthodes et des formes de ce contrôle total, typiquement en Érythrée. Le contrôle de la population est vraiment maximal, puisqu'il y a un service national à durée indéfinie et un contrôle total de l'économie ou du peu d'économie qu'il y a dans ce pays par l'État. Mais en même temps, ça prend des formes très différentes de ce qu'on avait observé dans l'Allemagne nazie ou dans le communisme à l'époque de Staline ou dans le communisme finissant. En fait, on s'aperçoit que les types, la théorie classique de Hannah Arendt est très très marquée par le nazisme, c'est-à-dire à la fois l'incandescence idéologique et la violence ciblée, et par le stalinisme, c'est-à-dire la terreur de masse. Et aujourd'hui, on a des formes très différentes. Alors en Érythrée, c'est terreur de masse, mais sans idéologie, c'est vraiment le pouvoir pour le pouvoir et le contrôle pour le contrôle. Vous avez des éléments totalitaires dans l'emprise du régime sur les populations en Russie, mais bien évidemment sans terreur de masse. Il y a une terreur ciblée. On assassine juste le nombre de journalistes et de politiciens nécessaires pour faire peur aux gens, sans qu'il soit nécessaire de faire une terreur de masse. En Chine, c'est encore différent. Bref, le totalitarisme a plus d'un tour dans son sac. Et je voudrais ajouter un point qui concerne la politique étrangère. C'est que ces néo-totalitarismes ou post-totalitarismes, l'Érythrée est vraiment le cas typique. Ce qui la rend indéchiffrable, ce qui la fait passer en dessous du radar, c'est en tout cas ce que j'ai compris dans le livre de Jean-Baptiste, c'est le caractère imprévisible et erratique de sa politique étrangère. Voilà un pays qui a une politique intérieure anti-musulmane, anti-islamiste, mais une alliance privilégiée avec le Soudan, qui déteste l'Amérique, mais qui admire Israël. Je dirais que s'il fallait définir le totalitarisme du XXIe siècle, c'est comme les tontons flingueurs. Les totalitarismes, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Jean-Baptiste, Jean-Gène Villemer, Marcel Gaucher qui... s'il a beaucoup réfléchi sur cette question, disait dans une interview à Télérama en 2010, « Je crois très profondément que la possibilité qu'il existe des États totalitaires est révolue. Les ingrédients ne sont plus là et c'est rassurant. » Est-ce que les néo-totalitarismes, comme les appelle Philippe Delara, n'ont pas aussi fructifié du fait de cette idée que avec le XXIe siècle, avec la chute du mur et la chute beaucoup plus tôt du nazisme, le totalitarisme allait disparaître?
Moi, je suis pas d'accord avec cette affirmation assez optimiste de Marcel Gaucher. Depuis tout à l'heure, on parle du totalitarisme, on l'a pas encore défini. Tout dépend de la définition. C'est fondamental. On aurait dû commencer par ça.
On parlait pas de contrôle de la population.
Il faut le définir, parce que si Marcel Gaucher a du totalitarisme une définition qui ne renvoie effectivement qu'au régime de type Allemagne nazie, URSS stalinienne, voire Italie de Mussolini, effectivement, ou Chine de Mao au maximum, effectivement, on ne retrouve pas ce genre de grands pays totalitaires aujourd'hui.
Mais que justement on est trop resté figé dans ces références
absolument, parce qu'elles sont très lourdes et elles ont complètement imprimé toute la recherche, tout ce que Philippe d'ailleurs appelle la philosophie politique du totalitarisme. Moi, la définition que je prends, elle est simple, elle est contestable comme toute définition, c'est un problème philosophique en soi, on pourrait en parler des heures, mais c'est la suivante. Le totalitarisme est une expérience de domination politique ayant l'unification comme fin, c'est-à-dire qu'elle est homogénéisante, et la terreur comme moyen. J'explique. Expérience de définition, expérience de domination politique, parce qu'elle peut s'exprimer autrement que sous la forme d'un régime qui est figé. D'ailleurs, ce que disait souvent Arendt, c'est que quand le mouvement totalitaire, le totalitarisme qui est à l'origine un mouvement, une lutte révolutionnaire, quand il devient un parti ou un régime, c'est le début de la fin. Il va mourir. Il s'ossifie, il se solidifie, il se sclérose. Et donc, ça peut prendre différentes formes. Ce qui pose la question de Daesh aujourd'hui, par exemple. Donc, expérience de domination politique. L'unification comme fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire parti unique, ça veut dire pas de médias, ça veut dire grosso modo la formule de Mussolini, tout dans l'État, rien en dehors de l'État, rien contre l'État. C'est ça l'unification comme fin. Et pour arriver à ce but, ça veut dire qui vise aussi pas de secteur privé et compagnie, pour arriver à ce but, la terreur comme moyen, c'est-à-dire arrestation arbitraire, exécution, dans certains cas massacre. Cette définition s'applique très bien à l'Érythrée, avec des évolutions dans le temps. Il n'y a pas des massacres tous les jours. Il y en a eu sur certaines populations, notamment les minorités Kunama et Afar. Mais cette définition-là, je crois, s'applique bien à l'Érythrée, comme à d'autres régimes aujourd'hui.
Alors, Florent Angèle, je rappelle que vous êtes le responsable du bureau Afrif de la FIDH. Est-ce que cette définition-là, elle peut s'appliquer, par exemple, à d'autres pays africains? On sait bien qu'il y a un certain nombre d'États qui ne sont pas démocratiques, mais est-ce que ça suffit pour en faire des régimes totalitaires?
J'aime bien cette définition parce qu'elle est modulable. Et elle est modulable notamment dans ses effets ou dans ses intensités. Quitte à mettre un peu les pieds dans le plat, mais c'est en même temps d'actualité de briser les tabous en ce moment. Le Rwanda, par exemple, qui non seulement, de notre point de vue, utilise la terreur, puisqu'il y a des exécutions extrajudiciaires dans une proportion assez importante qui se déroule aujourd'hui. Il y a une démocratie, mais de façade. Il n'y a plus d'organisation indépendante de défense des droits de l'homme. Le président de la dernière organisation de défense des droits de l'homme indépendante est aujourd'hui dans mon bureau en exil à Paris. Et donc, on voit qu'il y a aussi une utilisation de la terreur. En plus, il y a aussi l'utilisation de la terreur en tant que victime, puisque le régime Tutsi a été les Tutsis ont été victimes évidemment du génocide rwandais, et cette utilisation de la terreur pour instiller une autre forme de terreur est aussi une des dimensions de cette définition. Donc évidemment il y a le Rwanda, mais on pense aussi au Zimbabwe, même s'il le fait avec peut-être moins de finesse. Il y a énormément de pays qui peuvent rentrer dans cette définition, même si l'Afrique est en mouvement aujourd'hui. Et surtout, il y a énormément de modulation. Et puis, il y a une dernière chose que moi, je voudrais simplement ajouter par rapport à la question des totalitarismes, c'est que s'ils ont tendance à s'écrouler, c'est aussi la réduction de leur base sociale. Les totalitarismes peuvent, à un moment ou à un autre, émerger et se renforcer sur l'intérêt qu'a une relativement large base sociale à adhérer à ses valeurs, à ses mouvements, aux concepts. Au fur et à mesure du totalitarisme et de la dictature, cette base sociale s'amenuise et les régimes tombent un peu comme des fruits mûrs, parfois comme en Tunisie par exemple.
Philippe Delara, Florent Angèle nous dit donc cette définition-là, elle a les vertus de la souplesse, mais est-ce que ça n'est pas aussi un problème quand on cherche à définir le totalitarisme? C'est qu'à force de souplesse, on met dans cette acceptation-là énormément de choses. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle du projet de Daesh, de l'État islamique, on parle de projet totalitaire, mais on peut aussi de temps en temps entendre que le capitalisme serait un projet totalitaire. Et pourquoi pas mettre dans l'eau les États-Unis? On a appris aujourd'hui que la NSA avait écouté les conversations téléphoniques des derniers présidents français. Le totalitarisme, ça peut aller très loin finalement aujourd'hui.
À ce moment-là, c'est un mot qui perd toute signification. Je crois que la définition qu'a donnée Jean-Baptiste, elle est opératoire. Et ce que vous avez dit également sur l'Afrique, par exemple le Gabon ou la Côte d'Ivoire, ça n'est pas le Zimbabwe. Ah, ce sont des régimes autoritaires, de même que l'Espagne de Franco, ça n'était pas un pays fasciste comme l'Italie, parce que ce sont des dictatures essentiellement basées sur le traditionnalisme et pas mal ou beaucoup ou un peu de corruption. Alors que je voudrais simplement dire qu'il y a quelque chose à ajouter pour bien fixer la différence entre totalitaire et autoritaire, c'est le phénomène de la surenchère permanente qui est caractéristique de ces régimes, ce que vous avez appelé l'autodestruction, la tendance à l'autodestruction.
C'est-à-dire pour se maintenir, en fait, il faut aller de plus en plus loin.
Voilà, aller toujours de plus en plus loin, maintenir la terreur même quand il n'y a plus d'ennemis, inventer, si on n'en a pas, des objectifs nouveaux. Et ça prend cette fois... Alors, dans les totalitarismes premier XXe siècle. Ça prenait la forme de projets révolutionnaires grandioses, l'avenir radieux. Aujourd'hui, ça prend la forme, je dirais, de l'aventurisme. C'est-à-dire que, je disais, les totalitarismes du XXIe siècle, ça hausse tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est-à-dire que dans cette surenchère permanente, on a l'impression que les dirigeants eux-mêmes ne savent pas où ils vont, que leur seul objectif clair, c'est le maintien de leur propre pouvoir et qu'ils sont prêts à tout, y compris à la destruction de leur pays ou du moins de leur base sociale. Pour cela, c'est ça qui est à la fois... qui fait la grande différence avec la cohérence, disons, du nazisme ou du fascisme ou du stalinisme, mais qui n'est qu'à moitié rassurante parce que c'est le comportement de ces pays est assez imprévisible.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Pourquoi y a-t-il encore des régimes totalitaires? C'est le thème de notre discussion ce soir avec Philippe Delara, Florent Gel et Jean-Baptiste, Jean-Gène Villemer. Alors, on a parlé de concepts opératoires, de dimensions autodestructrices de ces régimes totalitaires. Est-ce que ça signifie que c'est peut-être pas la peine de chercher à les combattre, ces régimes, l'Érythrée, mais on pourrait, donc on a parlé de la Corée du Nord, on parler du Turkménistan, il y a peut-être d'ailleurs un certain nombre d'autres pays, hein, vous en avez cité d'autres sur le continent africain, Florent Gel, mais est-ce que ça veut dire que de toute manière, ces régimes, à partir du moment où ils commencent à exister, ils sont déjà en train d'entrevoir leur fin et qu'il suffit d'attendre que ça pourrisse de l'intérieur, Jean-Baptiste, Jean-Gène Villemer?
Il y a une dimension suicidaire qu'avait bien développée Hannah Arendt du totalitarisme, on l'a déjà dit, pour la raison suivante, c'est qu'il consomme le totalitarisme. On peut utiliser la métaphore organiciste, qui est une métaphore classique en sciences politiques. C'est un parasite. Et son hôte, c'est sa population. Et pour fonctionner, il a besoin de ce qu'Arendt appelle du matériel humain. Donc il le consomme, ce matériel humain. Une grande partie est en prison, les autres fuient. L'Érythrée est en train de se vider. Vous avez la population totale érythréenne, c'est un peu plus de 6 millions d'habitants. On dit souvent 6 millions, en réalité, il y en a la moitié à l'extérieur.
Voilà, c'est 6 millions avec la diaspora.
Avec la diaspora, il y en a entre 30 et 50% qui sont à l'extérieur. Et ils sont 5 à 10 000 à fuir chaque mois. L'ONU dit 5 000, en réalité, on pense que c'est entre 5 et 10 000, parce que 5 000, c'est le nombre de ceux qui s'inscrivent dans les camps du HCR en Éthiopie et au Soudan. Donc ils se vident, ce qui pose problème au régime en ce moment. Donc il est relativement ambivalent à l'égard de la fuite. Et ça, c'est intéressant, c'est un cas pratique intéressant. D'un côté, dans un premier temps, ça l'arrangeait, parce que les premiers à fuir sont les éléments potentiellement contestataires du régime. C'est les jeunes de 18 à 24 ans, chrétiens, éduqués, des hauts plateaux, de l'ethnie tigrinia, qui pouvaient potentiellement poser des problèmes au régime. Là, la fuite commence à entamer d'autres couches de la société. On voit de plus en plus de musulmans fuir, de plus en plus de pauvres, de paysans, etc., traverser, de plus en plus de femmes, de plus en plus de personnes âgées, etc. Donc, il y a un suicide du régime, et c'est ça qui va tuer, c'est pour des raisons essentiellement démographiques, qui va tuer le régime érythréen, c'est une absence de renouvellement social.
Parce que ça peut être quand même un suicide à petit feu. Si on prend le cas de la Corée du Nord, là on a quand même une dynastie, celle des Kim, avec aujourd'hui Kim Jong-un, on pourrait parler de dynastie totalitaire. Alors est-ce que c'est parce que la population peut fuir beaucoup plus difficilement que le régime se maintient aussi longtemps?
C'est très différent, c'est un type de totalitarisme qui est un totalitarisme dynastique, effectivement c'est pas le cas de tous. Il n'y a pas du tout de dynastie en Érythrée. Isaias n'a pas de dauphin, il a un fils qui est dans l'armée de l'air qui n'est pas du tout mis en avant. Il n'y a pas de dynastie, donc le régime va mourir avec la classe dirigeante actuelle. Mais ce n'est pas une raison non plus, comme vous disiez au début, vous posiez la question, pour ne rien faire, pour ne pas le combattre et pour attendre qu'il pourrisse, parce qu'il faut savoir ce qui viendra après. Il faut savoir si on va vers un effondrement, une somalisation du pays ou pas, s'il peut y avoir un écoulement sur les pays voisins. Donc il faut anticiper cette fin. La grande question, c'est est-ce que dans la lutte contre le totalitarisme, il faut laisser le pays s'isoler ou l'ouvrir? C'est ça la grande question qui divise d'ailleurs, y compris parmi des défenseurs des droits de l'homme.
Justement, puisqu'on a un des représentants d'une ONG qui défend les droits de l'homme, Florent Gel, avec la FIDH, comment est-ce qu'on peut agir contre des régimes totalitaires? Est-ce que c'est justement en aidant les militants des droits de l'homme, en essayant de promouvoir les vertus de la démocratie, qu'on peut, de l'intérieur, essayer de réformer les régimes, ou c'est beaucoup plus compliqué que ça quand on est face à un régime totalitaire?
Déjà, il faut en parler, parce que l'Érythrée, on n'en parle pas beaucoup en dehors de cette maison, ou dans des enceinte un peu confinée des Nations Unies. Il faut en parler, il faut évidemment aider les populations, il faut aider les élites qui ont fui, ou les défenseurs des droits de l'homme, les partis politiques à s'organiser, à structurer la société. Cette maison qui est la FIDH et qui a un peu plus de 90 ans d'expérience, notamment maintenant, nous on considère que non, l'isolationnisme c'est pas intéressant. C'est une position uniquement morale. Or la position morale, il faut l'avoir, mais il faut aussi avoir une position pratique qui est celle d'aider concrètement les gens, de travailler sur des conditionnalités éventuellement, d'amener ces régimes totalitaires à non seulement s'ouvrir, mais prendre des engagements par rapport, les ramener un petit peu dans le concert des nations et de la communauté internationale, si c'est possible.
Mais les ramener, ça veut dire quoi? Par la discussion ou par des sanctions économiques, judiciaires, diplomatiques?
Il faut un peu taper là où ça fait mal, hein, faire pression aussi sur, si vous voulez parler aujourd'hui à la Corée du Nord, il faut parler à la Chine. Si vous voulez parler à l'Érythrée, il faut parler au Soudan. Donc il faut analyser un peu ces moyens de pression. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des totalitarismes encore de nos jours? Un, par l'oubli, deux, par commodité politique, et trois, parce que pour la fameuse stabilité. Et donc l'Érythrée, c'est le premier, on l'a oublié, quoi.
Je rajouterai peut-être un quatrième point. Je ne sais pas si vous seriez d'accord, Philippe Delarame, mais parce qu'ils ne font pas vraiment peur. Enfin, la Corée du Nord, si, de temps en temps, quand il y a un essai nucléaire, mais en tout cas, ils ne font pas peur du point de vue du projet politique. Ce ne sont pas des projets expansionnistes aujourd'hui. Sauf si peut-être on met la Russie et la Chine dans le lot.
Eh ben oui, parce que vous avez évoqué le suicide des totalitarismes. Je dirais qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle allemand, qui est le modèle du paroxysme, et qui en effet est voué à la disparition rapide. Mais il y a un autre modèle dans l'histoire qui est peut-être plus significatif, qui est le modèle communiste du totalitarisme qui n'en finit pas de finir. Alors certes, la Chine actuelle ou la Russie actuelle n'ont plus rien à voir avec la Chine de Mao, avec l'URSS, mais ce sont des États qui ont largement hérité à la fois de la légitimité, de la mémoire collective, des méthodes de ce régime, et qui n'en finissent pas de se transformer, mais tout en conservant un certain nombre de traits fondamentaux du totalitarisme. Et il ne faut pas croire que l'époque des totalitarismes soit derrière nous. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'ils sont relativement indéchiffrables, parce qu'on est dans un monde mondialisé. Donc c'est plus la guerre froide, où il y a deux pôles ou trois pôles, une vie internationale qui est structurée par la guerre froide, par la décolonisation, par la combinaison des deux. C'est un monde multipolaire, comme on dit, et que ce soit des tout petits États comme l'Érythrée ou la Corée du Nord, mais qui est quand même nucléaire, ou des grandes puissances comme la Chine et la Russie, leur politique est assez difficilement déchiffrable. C'est pourquoi on peut être tenté de les oublier dans le cas de l'Érythrée, ou de les normaliser.
C'est difficile à déchiffrer, ça veut dire,
dans le cas de la Russie.
Ça veut dire aussi que c'est compliqué aujourd'hui, ou ça serait compliqué de mobiliser au nom de la lutte contre le totalitarisme.
Oui, parce que ce ne sont pas des ennemis, au sens du conflit ouvert, comme l'était la guerre froide, un camp contre un autre, mais c'est pas non plus des amis. Et c'est ce qui se passe, et on voit très bien aujourd'hui la difficulté de la communauté internationale à prendre le régime russe ou le régime chinois pour ce qu'ils sont, c'est qu'on se dit qu'on a besoin de la Chine, qu'on a besoin de la Russie. Il y a l'islamisme, l'instabilité du Proche-Orient, le réchauffement climatique. Alors si en plus on doit considérer la Chine ou la Russie, non pas comme des partenaires, mais comme des autres un peu hostiles avec lesquels il faut négocier, mais qu'on ne peut pas considérer comme des gens, qui sont comme nous. Ce que tout le monde a cru de la fin du communisme, c'est que les États successeurs deviendraient bon an mal an, petit à petit, des États occidentaux comme les autres. Or, ça n'est pas ce qui s'est passé ni en Chine, ni en Russie. Et aujourd'hui, dans les deux cas, on peut parler, comme je pense, de l'installation dans la longue durée d'un régime post- ou néo-totalitaire, qui n'est ni un régime dingue comme l'était le premier totalitarisme, ni non plus un État en voie de normalisation, fût-ce comme un État autoritaire, mais qui est un autre type d'État avec lesquels il va falloir compter. Et comme l'a très bien dit monsieur, c'est une affaire de bâton autant que de carottes.
Jean-Baptiste, Jean-Jean Villemer.
Moi, je pense que j'ai une approche plus restrictive et une définition plus étroite, en réalité, du totalitarisme, à la fois que Philippe et que Florent, que ça concerne la Chine et la Russie ou les pays africains. Je ne pense pas que la Chine et la Russie soient totalitaires, ni d'ailleurs le Rwanda et le Zimbabwe. Je pense qu'il y a une différence de nature, et il faut insister là-dessus. Le totalitarisme, c'est la fusion de la société dans l'État. C'est-à-dire que rien ne subsiste en dehors de l'État. C'est-à-dire dans les États totalitaires, vous n'avez par exemple aucun média indépendant. Pas peu, vous n'en avez aucun. Dans un régime totalitaire, vous n'avez pas de secteur privé. Or, aujourd'hui, il y a des médias indépendants, il y a du secteur privé en Chine, il y en a aussi en Russie, il y a des liens, c'est de l'autoritarisme fort, il y en a aussi au Rwanda. Dans un régime totalitaire, l'oppression est généralisée, elle n'est pas ciblée. Il me semble qu'au Rwanda, elle est ciblée. Elle est trop ciblée, on peut considérer que c'est très, très problématique, mais il y a une cible particulière. Donc il y a des caractéristiques du totalitarisme qui me semblent restreindre la liste en réalité à très peu de situations aujourd'hui. Et c'est grosso modo les trois que RSF appelle le trio infernal à la fin de ses classements de la liberté de la presse depuis 2007 et que sont dans l'ordre Turkménistan, Corée du Nord et Érythrée, qui est systématiquement le dernier depuis cette date.
Est-ce que pour vous c'est important d'avoir une définition plus restrictive pour les combattre de manière plus précise justement ? Enfin, si tant est qu'il faille les combattre.
Oui, je pense parce qu'ils réagissent pas de la même manière selon qu'on est totalitaire ou pas aux sanctions. Et ils n'ont pas les mêmes interactions avec la communauté internationale. Un régime totalitaire, il est très important, encore plus qu'un régime autoritaire, surtout ne pas l'isoler. Un régime autoritaire, on peut faire pression de diverses manières, notamment avec des sanctions. Il sera beaucoup plus sensible parce qu'il y a plus d'interdépendance entre lui et les autres. Un régime totalitaire, il est déjà hyper isolé, ou dans le cas du Turkménistan, à peu près autosuffisant parce que grâce à la rente gazière. Dans le cas de l'Érythrée, ils font l'autosuffisance un principe. Plus on l'isole, plus ça permet à ce que Hannah Arendt appelait le laboratoire d'être scellé. Ce que veut le régime totalitaire, c'est d'avoir un laboratoire scellé. Ça veut dire rien qui rentre, rien qui sort. C'est
pour donc
ça
il faut qu'on ferme les frontières. Il faut discuter, par exemple, avec le président Isaias en Érythrée.
Isaias, c'est un cas compliqué parce qu'Isaias n'est pas un interlocuteur rationnel. Il fait des promesses, il n'arrête pas de faire des promesses sur une nouvelle constitution, alors que la dernière, celle de 97, n'est jamais entrée en vigueur. En ce moment, Isaias, qui est très opportuniste, utilise la crise migratoire pour essayer de se rapprocher de l'Europe et utilise la guerre au Yémen pour essayer de se rapprocher des pays du Golfe. Donc il faut faire attention à tous ces mouvements-là. Il faut pas rompre avec le pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de discuter naturellement, mais il ne faut rien en attendre. Si l'Union européenne, par exemple, pense que c'est en se rapprochant, ou certains pays européens, que je ne nommerai pas, qui sont plus proches de l'Érythrée, pensent que c'est en se rapprochant de l'Érythrée qu'ils arriveront à réduire le flot de réfugiés qui s'échouent sur les côtes italiennes, ils se mettent le doigt dans l'œil. Parce que c'est absolument pas pour cette raison que les gens fuient. C'est pas un problème de développement de l'Érythrée, c'est un problème totalitaire, et il faudrait, pour le résoudre, qu'il y ait des réformes économiques structurelles très importantes. Et en premier lieu, il y a la démobilisation. Le premier problème, c'est le service national à durée indéfinie. Isaias ne fera pas ça parce que c'est sa marque de fabrique, c'est sa signature. C'est une réforme très importante pour lui. Et parce que, surtout, démobiliser tuerait, accélérerait la chute du totalitarisme.
Alors justement, j'allais venir à cette question de l'attitude de l'Union européenne. Florent Gel, l'Europe est donc confrontée à l'arrivée de migrants qui viennent notamment d'Érythrée. Ils sont beaucoup plus nombreux que, si c'était en 2014, en tout cas que les années précédentes. Est-ce qu'il n'y a pas justement ce risque qu'évoquait Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, de voir des Européens qui, pour essayer de juguler un petit peu ces flux de migrants, seraient tentés d'aider économiquement le régime en pensant peut-être, en faisant une erreur d'analyse et donc en permettant à ce régime de se maintenir un peu plus longtemps que prévu?
L'Union européenne l'a fait, il l'a fait avec la Libye. N'eût été les interventions hasardeuses de la France contre la Libye qui a provoqué d'autres problèmes. Et pour dire que c'est pas une position unique, la FIDH, on avait salué celle de la France au Mali. Donc c'est pas une question idéologique, c'est une question d'analyse pratique et de conséquences. Mais toujours est-il, pour revenir à l'Union européenne. Il est évident que la politique qui consiste simplement à considérer ses frontières extérieures comme des sas qui empêcheraient les gens de venir est une erreur d'analyse, une erreur stratégique et une politique faillie et qui va faillir. Et on le voit tous les jours en Méditerranée, s'il en fallait une démonstration. Et en plus, on se donne même pas les moyens de cette politique, puisque les moyens qui ont été développés par l'Italie étaient deux fois supérieurs à ceux que le dernier Conseil européen a accordé pour la dernière opération européenne. Donc, c'est vraiment, c'est un peu de l'esbrouffe en fait, là, en ce moment, la politique européenne en matière de migration et sa conception même de la politique étrangère. Et en fait, c'est ça le problème de l'Europe, c'est qu'elle a pas de politique de défense et elle a une conception de la politique étrangère qui est une accumulation de politique nationale des pays qui la composent et qui fait pas une vision, qui fait pas une diplomatie de puissance et qui donc n'adresse pas les bons problèmes et ne répond pas aux bonnes questions et en particulier, et ça c'est flagrant massif, en ce qui concerne les immigrés et les populations qui fuient les migrants. Donc avec l'Érythrée, avec l'Égypte, avec l'Afrique du Nord, il faudrait pouvoir discuter de quoi vous avez besoin. Vous êtes des pays de transit, où sont les pays de départ, comment est-ce qu'on traite ces pays. Sur l'Érythrée, est-ce qu'il faut que discuter avec Isaias? On a vu que les régimes totalitaires ne sont pas non plus des régimes monolithiques en interne. Il y a des discussions, il y a des tendances. Est-ce qu'il ne faut pas appuyer ces tendances? Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu, sans pour autant envoyer des rafales, bombarder l'Érythrée, mais est-ce qu'il ne faut pas un petit peu faire bouger les blocs à l'intérieur même? Mais pour ça, il faut les connaître. Et on a très peu de spécialistes, à part Jean-Baptiste, de l'Érythrée, qui serait capable de mener une politique, parce que simplement, c'est pas intéressant.
Pour ça aussi, il faut aussi sans doute avoir et conscience peut-être du drame qui est vécu par les populations qui vivent dans ces régimes totalitaires et de leur éventuelle dangerosité. Vous disiez tout à l'heure, Jean-Baptiste, Jean-Gene Wilmer, avec Isaias, qui est problématique, c'est qu'il est un peu irrationnel dans ses décisions. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème le problème dans la confrontation qu'on a avec les régimes totalitaires aujourd'hui, Philippe Delara, c'est que ceux qui dirigent ces régimes, alors si on reste sur la définition stricte, c'est-à-dire Corée du Nord, Turkménistan et Érythrée, des dirigeants qui ont presque l'allure de dictateurs d'opérette, en tout cas voilà, qui sont tellement paranoïaques et irréalistes dans leurs décisions qu'on les prend pas suffisamment au sérieux.
Je dirais deux choses. La première, c'est que là, je suis d'accord avec Jean-Baptiste. Il faut surtout pas jouer la carte de l'isolement, mais au contraire s'appuyer sur le fait que si je puis dire, les totalitarismes sont mondialisés comme les autres, enfin, sont inscrits dans la mondialisation comme les autres, ce qui donne des moyens de pression et d'action beaucoup plus importants que ceux qu'on met en œuvre aujourd'hui. Et la deuxième chose, et là je ne serais pas tout à fait d'accord avec Jean-Baptiste, c'est qu'il y a quelque chose qui oblige à allonger un peu la liste, c'est le critère de la mobilisation des masses et de ces politiques de délire collectif par le contrôle des médias, par des discours guerriers ou pseudo-guerriers qui caractérisent aujourd'hui la sphère publique en Érythrée, mais aussi en Russie. Et là-dessus, justement, je pense qu'on peut agir directement en communiquant avec les populations. Les moyens modernes aujourd'hui, l'Internet, les télévisions, permettent de toucher directement. Il ne faut pas hésiter à être offensif dans notre façon de nous adresser au peuple de ces pays.
Juste un dernier mot, pardonnez-moi Philippe Delara, je disais au début de l'émission que vous assurez le programme à SAS Modernité Totalitarisme. Vous dites que les totalitarismes, ils sont inscrits dans la mondialisation, ils sont inscrits aussi dans la modernité, en quelques secondes, même si ça fait partie de tout un cours.
Oui, en deux mots, le pitch, c'est que le totalitarisme n'est pas un phénomène aberrant ou archaïque, c'est quelque chose qui est inhérent à la à la modernité démocratique, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de le de se rassurer en disant c'est juste une phase de transition. Et si je puis dire, il y a le totalitarisme version Arendt qui est très 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 localisé, très limité, mais vous avez aussi le totalitarisme, j'irais version Kolakowski, qui est l'autre grand intellectuel polonais qui a pensé le totalitarisme, ou Emilio Gentile aujourd'hui en Italie, qui sont des penseurs qui nous permettent de comprendre l'actualité et la diffusion beaucoup plus large du phénomène totalitaire.
Bon, je propose à nos auditrices et nos auditeurs de s'inscrire pour la rentrée à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas dans votre programme, Philippe Delara. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Merci à Florent Gel de la FIDH et à Jean-Baptiste Jean-Gene-Villemer. Je rappelle votre dernier ouvrage là, qui vient d'être publié au PUF, Érythrée, un naufrage totalitaire. Vous pourrez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an. Demain, notre sujet, comment évaluer les services publics. Tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.